Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, nous parlons aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'émission, au Capi Service, on parle de la déperdition scolaire. Vous savez, la déperdition scolaire figure parmi les maux qui rongent le secteur de l'éducation. Ils sont de plus en plus nombreux, ces élèves qui commencent l'année, ils sont nombreux dans les salles de classe. Et au fur et à mesure, les enfants abandonnent les chemins de l'école pour plusieurs raisons. Certains redoublent des classes tellement, bon, ils en ont marre, ils préfèrent abandonner. Alors, quelles sont les causes à la base de la déperdition scolaire et comment et quelles sont les solutions à apporter? Monsieur Odon Moulanda est expert en éducation. On va aborder la question tout de suite avec lui. Monsieur Odon, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur le journaliste.
Alors, la déperdition scolaire, qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, avant même de parler de la déperdition scolaire, commençons d'abord par parler des déperditions d'une manière générale.
Oui.
Lorsqu'on parle de déperdition, nous voyons une perte graduelle, c'est-à-dire un affaiblissement progressif. Alors, si nous revenons maintenant dans le cadre purement scolaire, on sait que pour mieux comprendre le terme, je me refuse de donner des définitions scientifiques parce que nous ne sommes pas dans un cours magistral, mais nous partirons plus par des exemples plus concrets pour permettre à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, de mieux comprendre et cerner le problème.
D'accord.
Vous avez dit, au début de l'année, on inscrit. Un certain nombre d'élèves sont inscrits. Ces élèves-là qui s'engagent dans un processus doivent aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il y a l'entrée du système, et qu'on appelle « input », et de l'autre côté, il y a la sortie du système « output ». Alors, dans les deux extrêmes, il faudra qu'on voie tous ces enfants-là qui ont été inscrits, comment ils ont parcouru leur cursus scolaire pour arriver maintenant à la sortie. À ce niveau-là, nous pouvons même prendre des choses à deux niveaux. Prenons d'abord au cours d'une année scolaire. Nous sommes dans une classe donnée. On a inscrit en première année, par exemple, je prends dans l'ensemble de l'école, ou je peux commencer d'abord pour une classe.
Oui.
Selon la réglementation, on ne peut pas dépasser plus de 50 élèves dans une classe. Mais on a inscrit...
En première année?
Dans toute classe.
Dans toute classe. Pas plus de 50 élèves.
Voilà.
Okay.
Alors, nous avons par exemple 45 élèves dans une classe donnée. Ces élèves-là vont passer le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. À la fin de l'année, nous devons maintenant voir, en termes de fréquentation, combien ont été inscrits. Et combien termine l'année? Vous allez trouver maintenant qu'il y a un nombre important ou un nombre donné va nous aider de voir des 45 qui ont été inscrits. À la fin de l'année, nous n'avons eu que 35, par exemple, qui se retrouvent, qui vont passer à la classe supérieure.
Où sont partis les autres?
Alors, où sont partis les autres? C'est à ce niveau-là que nous allons voir maintenant quels sont les facteurs, les indices qui vont nous permettre maintenant à cerner ce problème de déperdition. Où sont-ils partis? Les 10-là qui ne se retrouvent pas ici, soit ont abandonné leurs études, ou soit ce sont ceux qui n'ont pas réussi et sont maintenant projetés pour le redoublement. C'est ainsi que, pour mieux cerner ce problème de déperdition, les deux facteurs qui peuvent nous aider, c'est d'abord à travers le résultat, c'est-à-dire les échecs, et de l'autre côté, l'abandon. Donc, les abandons et tous ces échecs-là constituent le grand lot que nous logeons dans les phénomènes de la déperdition scolaire.
Voilà. Alors, pourquoi certains élèves abandonnent?
Bon, les élèves abandonnent pour diverses raisons.
Lesquelles, non?
Il y a des problèmes purement particuliers qui sont endogènes, c'est-à-dire liés à l'élève lui-même. Il y a aussi des facteurs exogènes qui ne dépendent pas de l'élève. Il peut avoir la bonne volonté d'étudier, mais la vie de l'école, si l'école n'est pas un milieu qui puisse lui permettre de vivre dans un bon climat de travail, ses relations avec les élèves, les autres élèves, les relations avec les autorités scolaires, les relations avec l'enseignant peuvent faire que l'élève puisse trouver que l'école est un milieu ambiant, un milieu qui lui permette de pouvoir se déployer. Mais quand il trouve que ça ne va pas, il y a des élèves qui abandonnent. Il y a aussi la part de parents. Il y a des parents qui ne savent pas prendre en charge comme il faut les enfants ou leurs propres enfants. Vous allez voir que ces enfants-là, ne trouvant pas aussi l'appui nécessaire du côté des parents, quand ils vont à l'école, ils sont chassés par non-paiement des frais scolaires.
Oui.
C'est tout un problème qu'ils seront gênés et finalement, ils vont aussi se mettre dans une situation d'abandon.
Il y a d'autres. Et à un certain moment, c'était devenu trop fréquent, on chasse les enfants à l'école. C'était pas très bien.
Bon, c'était pas très bien.
Et apparemment, ça continue ailleurs.
Bon, évidemment, il y a des gens qui sont plus entêtés, alors que les directives au niveau du ministère, de manière générale, interdisent ces pratiques-là. Donc, voilà un peu, ce sont là des causes qui peuvent nous entraîner à cette situation de déperdition scolaire.
Voilà, ce sont là les causes. Et les parents n'ont plus de moyens, ils ne peuvent pas payer les minervales. Et voilà, c'est ça. Donc, ils préfèrent que l'enfant reste à la maison.
Oui, tout ça, ce sont des facteurs. Et puis, quand nous parlons même des parents, nous pouvons même aller plus loin. Quels sont aussi les autres facteurs qui peuvent encore influer? Il y a la profession des parents. Ça, le niveau intellectuel des parents est un acte vraiment... un atout aussi majeur.
Le niveau intellectuel des parents.
Le niveau intellectuel, la profession des parents, un parent qui sait qu'il a un niveau plus élevé ne va pas accepter que ses élèves, ses enfants puissent se retrouver dans une situation un peu plus basse par rapport à lui. Donc, il va tout faire pour que ses enfants puissent étudier et il a la facilité de suivre, par exemple, le devoir des enfants à la maison. Il a la facilité aussi de contrôler tout ce qui se passe. Mais lorsque vous êtes en face d'un parent qui a des difficultés d'abord sur le plan socio-économique. Il est plus préoccupé pour la survie de tous les jours.
Oui.
Il est difficile qu'il puisse aussi s'occuper de la scolarité de son enfant.
Parce que il peut voir, on chasse l'enfant aujourd'hui, demain, après il se dit, bon, fanakaka, total amakamboa nasima.
Oui, ça c'est tout à fait normal, mais il y a encore un autre élément que je voudrais ajouter aussi. Il y a la composition même et la structure de la famille. Les gens peuvent vous dire, je suis marié et je suis tel. Mais sachez que le statut des parents par rapport à la scolarité joue aussi énormément. Un enfant d'une famille unie monogame ne connaît pas les mêmes difficultés qu'un enfant d'une famille, par exemple, polygame, où le papa visite l'enfant peut-être une fois, deux fois par semaine. Et de l'autre côté, un enfant qui vit avec son père, avec ses parents tous les jours. Donc psychologiquement, c'est tout un problème aussi. Il y a des parents, des élèves ou des enfants issus de familles divorcées. L'enfant se retrouve chez les grands-parents. Il ne voit ni papa ni maman, mais il est là. Au lieu de subir la vraie éducation des parents, mais maintenant ce sont des grands-pères qui continuent à éduquer cet enfant.
Et les grands-pères ne donnent pas toujours une bonne éducation.
Vous comprenez que c'est une situation difficile.
Oui.
Alors, donc, les niveaux des parents.
Il y a beaucoup de laisser aller chez les grands-parents.
Oui, je voulais insister un peu sur la participation des parents pour qu'ils comprennent que sur le plan même de l'encadrement de leurs enfants, ils ont un rôle à jouer et que le statut de leur famille, la composition même joue un peu plus. Il y a des familles aussi nombreuses. Vous voyez, tellement il y a plusieurs enfants, les parents sont aussi délaissés. Ils ne peuvent pas voir comment suivre le cas individuel de chaque enfant. D'où, avec des familles nombreuses, il faudra qu'il y ait un soutien pour voir comment aider ces enfants-là à évoluer. Donc voilà un peu ça, c'est plus sur le plan de la famille que j'ai voulu insister. Mais au niveau de l'école, au niveau de la communauté, au niveau de l'Église, il y a encore une sensibilisation qui doit être faite de manière plus aguerrie.
Ogui Bendel, on nous appelle de Kikwit. Vous voulez également participer à cette émission composée de 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Kapé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi, de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Ogi Bendelo de Kikwit, bonjour.
Bonjour, Julie Daniel Kachama.
Nous parlons de la déperdition scolaire. Est-ce que à Kikwit, beaucoup d'enfants abandonnent le chemin de l'école?
Oui, je dis, c'est le cas est général, hein, à Kikwit et partout, j'espère, sur toute l'étendue de la République.
Oui.
C'est le cas là est général. Alors, je voulais poser la question à l'invité qui a bien fait le constat. Moi, je voulais lui demander, quel conseil peut-il donner aux parents qui donnent naissance à plusieurs enfants, mais qui n'ont pas de sous et ne parviennent pas à satisfaire chaque enfant pour payer ses frais scolaires? Les enfants abandonnent, donc un papa peut avoir 5-6 enfants, mais aucun d'eux n'a même un diplôme d'État, et parfois il n'y a aucun d'entre eux qui arrive même en première secondaire. Et déjà, je voulais poser aussi la question à notre invité de savoir, étant fait ce constat-là, quel peut être selon lui le remède pour améliorer? C'est ce que j'ai voulu demander, M. Jury.
Bien, merci. Odo Moulanda.
Oui, merci beaucoup. Lorsqu'il parle de parents qui ont plusieurs enfants, c'est là qu'il me rejoint quand j'ai parlé du niveau socio-économique. On ne sait pas ses parents, n'ont pas de moyens. Mais vous savez que la situation socio-économique peut pousser aussi les parents dans des milieux reculés et dans des milieux ruraux, au lieu d'avoir des distractions chaque soir. Ils ne peuvent qu'aller très tôt au lit. Et vous comprenez, vous n'allez pas interdire à un parent à pouvoir se réjouir de ce qu'il a comme droit sur le plan conjugal. Donc c'est tout un problème. Mmh. Le niveau socio-économique, c'est un facteur important.
Il faut peut-être un problème
important.
D'éducation. Il faut
un problème d'éducation. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau même du ministère de la Santé, on parle de planning familial. Mmh. Donc il faut les sensibiliser, les aider, le faire comprendre.
À limiter les naissances. Ouais.
Il ne suffit pas tout simplement d'avoir plusieurs enfants, mais faudra-t-il aussi savoir comment les occuper, comment les aider, comment parvenir à leur scolarisation. Donc, ce qu'il dit là est correct. Quant à ce qui concerne les remèdes, je pense qu'il y a tout un point sur lequel nous allons maintenant parler sur les solutions que nous devons apporter à chaque niveau. Je ne sais pas si il y a encore d'autres questions.
Non, on va aborder parler des remèdes tout à l'heure. Mais avant cela, vous avez parlé de l'école. Que peut être l'implication de l'école par rapport à ce phénomène de déperdition scolaire et la communauté également. Vous avez parlé de la communauté, les églises, pour arriver à mettre fin. On est déjà dans les remèdes pour arriver à mettre fin à cela.
Oui, de manière générale, pour mettre fin à la déperdition, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau individuel, je prends la famille. Nous avons déjà parlé des rôles des parents qu'ils doivent jouer, mais il y a aussi l'élève lui-même. Il faut une sensibilisation de l'élève, de l'enfant, pour qu'il comprenne le sens et l'importance des études. Il faudra que l'enfant puisse se rendre compte qu'il n'étudie pas, parce qu'à un certain moment, les enfants commençaient à comprendre qu'ils étudiaient pour les parents. Non, ils étudient d'abord pour eux-mêmes. Ils n'étudient pas pour le parent, même si dans la vieillesse, ils peuvent nous venir en aide. Mais ce qui est important, qu'au moment où nous parlons, le parent est en train de jouir déjà de sa vie. Et il se peut ou ne pas qu'il puisse bénéficier de l'aide de cet enfant-là. Donc l'enfant doit d'abord comprendre que c'est son propre avenir qui met en jeu. Sur le plan individuel, comme je l'ai dit, il y a des parents qui peuvent organiser, par exemple, des cours lorsqu'on trouve qu'il y a des échecs en masse au niveau de l'école, et les parents peuvent s'entendre pour essayer de donner des cours de récupération, de pouvoir passer peut-être au préceptorat aussi pour l'encadrement et l'accompagnement de ces enfants. Bon, au niveau de l'école, c'est un effort qui doit être fait pour qu'il y ait d'abord respect du programme.
Oui.
Pourquoi vit-on des échecs, parfois en masse? Il y a des enfants qui échouent. Mais cet échec-là n'est pas nécessairement dû à une cause liée à l'enfant seulement. Donc, il y a le respect des programmes. Il y a aussi l'encadrement qu'il faudra mettre en évidence au niveau de l'école. Il y a le suivi psychologique des enfants. Nous insistons de le dire que lorsque l'enseignant arrive, il ne fait que communiquer les savoirs. Mais il y a aussi une autre dimension de l'encadrement psychologique qui doit être fait dans le cadre du counseling ou de l'orientation scolaire, c'est-à-dire voir aussi comment aider un enfant qui est en difficulté, qui a des troubles de comportement par rapport à la famille.
Peut-être qu'il a vécu des situations, terribles à la maison.
À la maison,
bon, il vient à l'école,
disais,
il est distrait.
Il est distrait. Toutes les bagarres qu'il subit au niveau des parents là-bas. Mmh. Mais ça se répercute aussi sur sa vie scolaire. C'est ainsi que...
Et il perd même le goût de venir à l'école.
Donc, l'école devient aussi un milieu qui, au lieu d'être un milieu favorable à son épanouissement, au contraire, l'école essaie un peu de le basculer dans le mal. Donc, nous devons faire un effort à ce niveau-là pour que l'encadrement soit vraiment efficace et que l'enfant soit accompagné sur le plan pédagogique et sur le plan psychologique.
Alors, avant de poursuivre, un auditeur en ligne, Chief Limanga de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, Yodi.
Quelle est votre question?
C'est juste une petite préoccupation par rapport à l'invité. Peut-être en rapport avec la perdition scolaire, nous avons remarqué que, à part la responsabilité qui est plus jetée aux parents, il y a aussi une autre qui est donnée à l'État, et surtout l'État congolais, en rapport avec son système éducatif. Après, nous avions compris que l'État n'a pas prévu suffisamment de temps pour la détente ou l'épanouissement des élèves pendant qu'on est à l'école. On a plus de temps à étudier et à ce niveau, les études constituent comme un fardeau, comme une punition. On n'a pas suffisamment le temps de se détendre. Et la raison pour laquelle d'autres enfants préfèrent rester à la maison, jouer avec les amis qui ne sont pas à l'école.
Mais Chief Limanga, il y a le temps de la récré. Il y a la récréation chaque jour à l'école.
Mais cette récréation n'a que 30 minutes aujourd'hui. Mais il faut voir dans quelles conditions on a prévu cette récréation. Je pense que vous serez d'accord avec moi que les écoles qui ont été construites par les Belges, il y avait les terrains de basket et de football, ainsi de suite. Mais actuellement, il n'y en a pas. Donc les enfants n'ont pas suffisamment le temps de se détendre. C'est pourquoi ils restent à la maison. Et vous êtes d'accord avec moi que le système éducatif de la France aujourd'hui a renforcé, n'est-ce pas, un ton réglementaire pour la distraction et des activités para-académiques là sur place, la création des écoles de foot, ainsi de tout, où les enfants peuvent se détendre à l'école et trouver que l'école, c'est un bon moment où, en dehors des études, ils peuvent se distraire sans aucun problème.
Merci Chief Limanga. Monsieur Odon, qu'est-ce que vous pouvez dire à Chief Limanga?
Bon, merci Chief Limanga. Je pense quand il dit que vous serez d'accord avec moi, je dis pas tellement d'accord avec vous, parce que nous allons partager quand même l'information.
Oui.
Ici, il faudra comprendre, lorsqu'il parle des temps, mais tout est programmé. Vous savez, une année scolaire a un nombre donné de jours. On vous dit par exemple, au niveau primaire, il faut avoir par exemple 220 jours. Au niveau secondaire, il faut atteindre tel nombre de jours. Donc, le calendrier, l'horaire des classes, tout sont liés par rapport à cette durée-là qui est déjà prévue.
Mmh.
Et ce n'est pas pour rien aussi qu'il y ait, dans une vacation, on ne peut pas avoir des enfants qui étudient du matin jusqu'au soir. Nous ne serons pas d'accord avec lui parce qu'on sait que ceux qui travaillent, par exemple, le matin, ils commencent à 7h30 et à 12h30, et ils terminent leur cours avec une pause. Il y a la récréation qui intervient.
Mmh.
Donc, il y a d'abord la récréation qui est là.
De 30 minutes.
De 15 à 30 minutes.
Mmh.
À part cette récréation-là, dans les après-midi, ils sont déjà libres. Et par rapport à ce qu'il dit au niveau des activités, mais au niveau des écoles, il y a ce qu'on appelle aussi des activités parascolaires. Et je voulais d'abord, parce qu'il m'a essayé un peu de défoncer dans le raisonnement, j'ai parlé des causes qu'il faudra traiter sur le plan individuel, mais je n'ai pas abordé des décisions qui peuvent être prises aussi sur le plan de la haute hiérarchie du ministère, par exemple, qui est en charge de l'éducation.
Mmh.
Au niveau du ministère, par exemple, de l'éducation, cette question-là de déperdition, que cette question ayant trait à la fréquentation est aussi réglée. Aujourd'hui, comment on peut voir, par exemple, dire dans notre pays, il y a eu autant d'échecs. Par exemple, nous avons parlé d'échecs. Autant d'échecs par rapport à ce qui est attendu, autant d'abandon par rapport à ce qu'on appelle la réforme. Donc, il y a des réformes qui sont prises aussi au niveau de la sphère politique. C'est ainsi que je peux prendre l'exemple du ministère de l'EPC aujourd'hui, qui est dans une vaste réforme avec des stratégies qu'il a essayé de mettre sous les cadres des sous-secteurs de l'éducation, parmi lesquels il y a des dispositions qui sont prises pour que nous puissions réduire aussi la déperdition.
Mmh.
Parmi lesquelles nous pouvons déjà commencer à dire, par exemple, sur le plan de l'accessibilité. Vous savez que le ministère facilite maintenant aux parents de pouvoir inscrire leurs enfants.
Une inscription gratuite, on a suivi en début de cette
année scolaire. Vous avez suivi au début.
En début de cette année scolaire, on parle de l'inscription gratuite.
Ce sont des mesures incitatives. même pour les parents qui ont des enfants, hein, des familles nombreuses, la possibilité leur est accordée maintenant de pouvoir scolariser leurs enfants.
L'inscription est gratuite.
Oui. À part ça, il y a encore d'autres mesures qui sont prises. Il y a la rétention même du système. Tous ceux qui sont entrés dans le système, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces élèves qui entrent restent dans le système? L'accès est là, mais il faut la rétention. Pour arriver à la rétention, parmi les mesures, vous avez pris aussi qu'au niveau primaire, par exemple, il y a la gratuité de l'enseignement. À ce moment-là, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que nous ne puissions pas arriver à n'importe quel système?
Alors, dans certaines écoles, on a institué la cantine scolaire avec le PAM.
Il y a la cantine scolaire.
Ouais. Donc, on donne de la nourriture aux enfants.
Donc, ce sont des stratégies,
oui,
qui sont en train d'être mises en place pour que cet enfant-là, qui n'a pas de nourriture à la famille, contrairement à ce que disait l'ami, mais si à la cantine scolaire, il sait qu'en allant au cours,
il va manger
et ça devient intéressant pour le pour étudier.
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de choses qui se font, mais quand on n'a pas l'information, on ne sait pas peut-être mieux parler.
Madame Émilie Isola nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Merci pour la parole que vous m'accordez. Il y a un élément que l'invité a oublié pour moi. Je trouve que le mariage précoce pourrait être également l'une des raisons pour que les enfants n'arrivent pas jusqu'à la fin de leurs études. On est en train de décrier cette situation et vous êtes sans ignorer qu'au Cassaï, il y a des cas, beaucoup de cas qui concernent le mariage précoce et qui font que surtout les filles ne puissent pas arriver jusqu'à la fin de leurs études. Et cela nécessite une grande sensibilisation, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des parents. Disons, c'est l'affaire de tout le monde. C'est la petite contribution. Merci.
Ah, ok, merci Madame Émilie Zola de Lubumbashi.
Oui, mais c'est une contribution qui est la bienvenue. Elle n'a fait qu'ajouter, c'est vrai. Elle a parlé du Cassaï, il n'y a pas seulement le Cassaï. Nous pouvons, sur base de certaines informations que nous avons, on peut aller même dans l'Équateur. Il y a plusieurs provinces qui
avaient... Où les filles abandonnent l'école parce qu'elles doivent se marier.
Mais est-il que, comme j'ai parlé ici de la réforme, pour revenir un peu aux efforts que le ministère fait, ce n'est pas pour rien qu'avec l'appui de l'UNICEF, on avait déjà lancé des campagnes, on dit « garçons et filles à l'école ». Au cours de ces campagnes, il est demandé aux parents de pouvoir scolariser aussi bien les filles que les garçons. Et enlever dans leur esprit cette mentalité-là qui disait que la fille n'est pour rien, elle doit attendre le ménage et elle est là pour le mariage. Alors que la fille doit être aussi valorisée. Et aujourd'hui, au niveau du pays, avec tout ce qu'on a fait comme effort, je pense que tout le monde a compris que...
Mais il y a un problème culturel aussi. Madame Émilie a parlé du Cassaï, où les parents préfèrent envoyer leurs enfants se marier au lieu d'aller à l'école. Est-ce qu'il y a changement dans les mentalités?
Bon, le problème culturel, on en a partout. Maintenant, nous disons un effort doit être fait, un effort de sensibilisation à tous les niveaux. Elle a parlé de problèmes des filles. Elle est elle-même femme, vous comprendrez. Mais il y a encore un autre problème, c'est sur le plan socio-économique. Vous savez que dans toutes les zones minières, il se pose aussi le problème.
Au Katanga.
Sur le plan économique.
Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école.
Que ce soit au Katanga, et que ce soit dans des provinces où il y a des zones minières. Il y a des enfants qui abandonnent. Les enseignements, ils abandonnent les études pour aller dans les mines. Alors que les dispositions sont prises pour que toutes les autorités, à tous les niveaux où nous nous retrouvons, que ce soit les parents aussi, que tout le monde soit impliqué pour dire il faut accorder une valeur aux études des enfants. Parce qu'on ne pourra jamais réussir le développement de ces pays, le redressement de ces pays, sans tenir compte de la valeur de l'éducation. L'éducation est à la base.
Ils sont à combien le nombre d'enfants en dehors du circuit scolaire en République démocratique du Congo?
Bon, je me réserve de donner...
Certains parlaient de 7 millions ou quelque chose comme ça.
Bon, nous ne sommes pas autorisés de le dire de cette manière-là, mais moi je sais que le phénomène existe et que nous devons tous faire un effort pour que nous puissions voir dans quelle mesure réduire ces effectifs-là.
Mais ils sont nombreux, il faut à quoi?
Ils sont très nombreux, mais avec toutes les stratégies qui sont en train d'être mises en place, nous avançons vers une réduction sensible de ces phénomènes.
Voilà, on aura les statistiques, je pourrais peut-être vous les communiquer dans une prochaine émission. Sol, nous avons un autre auditeur en ligne. Sol Biamungu, il est à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Au fait, je suis déjà de Dion, avec. Alors, voilà, comme monsieur, je sais pas justement.
Monsieur Odon.
Voilà, il est en train de les causes des solutions à proposer par rapport au décrochage.
Alors, Sol, il y a un petit problème au niveau de la communication. Vous sortez entrecoupé. Veuillez vous déplacer un peu. Peut-être que ça va améliorer la connexion. C'est fait?
Ah, oui. Je pense que ça va.
Oui, allez-y.
Ok, voilà. Donc, je disais que je suis content de venir. En fait, votre invité, il a donné une série de solutions à proposer, mais moi, je vais passer juste à côté de ce que je fais comme solution principale à ce là de décrochage scolaire. Vous savez, je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, il y a le problème continue, Sol. Vous sortez toujours entrecoupé. Écoutez, si vous avez un autre téléphone, vous pouvez l'utiliser. Appelez-nous et puis on va vous rappeler pour participer. Le temps d'accueillir Neville Tony, qui est également à Kinshasa. Neville, bonjour. Neville, bonjour.
Bonjour, je dis encore bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Moi, je voudrais dire que compléter pour dire ceci. Moi, je vois peut-être que les problèmes, c'est des parents. Si un parent arrive à envoyer son enfant à l'école, il peut prendre le reste. Moi, je regrette surtout à Kinshasa, je vois des parents. Moi, imaginez peut-être le 9e mois, nous voyons des ambiances scolaires. Moi, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi on arrive toujours à des déchets pareils? Le gouvernement congolais ne peut pas prendre des dispositions pour résoudre la situation actuelle. Vous trouvez des enfants dans des coins, des filles et des garçons. C'est pourquoi je peux dire à l'invité, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le gouvernement fasse intervenir au plus fort que raison que possible?
Merci, Neville. Voilà, donc la question, c'est laquelle, au fait? Oui, la question, vous demandez qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour...
Est-ce que le gouvernement ne peut pas apporter des mesures autant que possible pour ne pas résoudre, pour ne pas avoir encore de même erreur là cette année scolaire?
D'accord. Donc, est-ce que, M. Oudon, vous étiez en train de parler d'un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de perdition scolaire? Il veut savoir si cette année, il y a de telles mesures pour prévenir cela.
Bon, en fait, quand nous disons l'effort que tous les opérateurs éducatifs doivent faire, c'est de pouvoir réduire sensiblement la déperdition scolaire. Mmh. Et il nous sera aussi difficile de dire qu'on pourra avoir zéro déperdition scolaire. Ça, c'est trop risqué. Parce que je vous ai dit qu'il y a des éléments, des indicateurs qui peuvent nous aider, par exemple, à dégager les taux. Il y a notamment l'échec scolaire, il y a aussi les abandons. Mais le gouvernement à son niveau, pour ne pas parler du gouvernement, du ministère, c'est bien sûr le ministère, a déjà pris des dispositions qui puissent permettre une meilleure fréquentation scolaire. De la même manière, il y a le règlement qui est déjà pris au niveau de chaque école. Il y a l'implication des parents qui doivent maintenant s'adonner pour que les enfants puissent respecter ce règlement-là. Donc, chacun de nous, ce n'est pas seulement le gouvernement, chacun de nous est appelé à contribuer pour que tout se passe correctement. Oui. Donc, sur le plan du ministère, c'est le renforcement peut-être des dispositions au niveau institutionnel pour que toutes les stratégies qui ont été prises ne puissent pas souffrir d'une défaillance à un certain niveau. Mmh. Mais il revient aux parents, il revient aux enfants, il revient à tout le monde de pouvoir s'impliquer dans ces processus-là pour que nous puissions réussir.
Voilà. Alphonse Boudry nous a écrit des Ngbokolo à Arou, en province orientale. Il dit ceci, les punitions inhumaines peuvent décourager les élèves. Ils peuvent prendre la décision de ne plus venir à l'école. Et il dit, que faire, par exemple, pour les enseignants qui arrivent à engrosser les élèves aussi?
Je pense qu'il revient à ce que nous avons dit. Si l'école ne joue plus son rôle comme il se doit, à ce moment-là, le milieu devient hostile et ce n'est plus un milieu vitalisant qui puisse permettre l'épanouissement. Mmh. Vous voyez, les punitions corporelles. Nous l'avons déjà dit. qu'au niveau même de la réglementation, il est interdit de pouvoir utiliser des punitions corporelles. La fille qui est engrossée, par exemple, par son enseignant, mais cet enseignant-là court beaucoup de risques sur le plan même juridique et sur le plan administratif. C'est quelqu'un qu'on doit faire partir de l'école parce qu'il n'a pas une très bonne morale.
Oui.
Donc, j'ai dit l'autre fois aussi qu'il y a déjà la loi portant protection de l'enfant qui prend des dispositions à l'encontre de tous ceux qui peuvent agir de cette manière-là. Donc, l'enfant doit être protégé. Le milieu de l'école doit permettre à ce que l'enfant puisse trouver un épanouissement, que l'enfant puisse se sentir un peu à l'aise et pouvoir progresser. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, comme je l'ai dit, celui qui ne se met pas dans le bateau de l'éducation va chavirer. Comment on va faire un Congo de demain si aujourd'hui tout le monde va se retrouver comme colonneur, si tout le monde va se retrouver comme enfant de la rue, si tout le monde est dans l'école buissonnière?
Oui.
Donc, c'est vraiment un effort qui doit être fait à tous les niveaux, niveau gouvernemental, au niveau des experts, au niveau des opérateurs éducatifs, au niveau des parents, de l'Église et de la communauté, comme je l'ai dit en général.
Angèle Télémy, depuis Ouata, en province orientale, vous pose cette question. Que faire pour un enfant qui ne va pas à l'école, mais il est chez ses parents et toutes les conditions minimum sont réunies pour les scolariser? Ils ont des moyens, mais l'enfant est à la maison.
Est-ce qu'ils ont déjà eu le temps de s'entretenir avec l'enfant? Moi, je pense que la première chose, c'est de pouvoir connaître pourquoi cet enfant-là n'accepte pas d'aller à l'école. Je l'ai dit, la composition familiale. Je l'ai dit, le regroupement familial.
Oui.
Permet-il à ce que l'enfant puisse se sentir un peu vraiment libre? Je pense qu'à ce moment-là, il faudra établir le pont entre l'école et la famille. Je l'ai déjà dit une fois, il y a des parents qui inscrivent leurs enfants et ne vont jamais à l'école. Ils ne connaissent même pas dans quelle classe étudient leurs enfants.
Oui.
Et à la fin de l'année, ils se présentent comme ça. L'enfant peut jouir de tout ce qu'il peut faire, peut-être lui amener un faux bulletin, et il va se sursauter jusqu'en dernière minute. Donc, cet parent-là, qui sait qu'il a un enfant, lui-même étant nanti, et que l'enfant ne veut pas aller à l'école, qu'il aille, peut-être qu'il va dénicher d'autres problèmes au niveau de l'école.
Je vous parlais aussi tout à l'heure du nombre d'enfants qui sont en dehors du circuit scolaire en RDC. D'après un rapport de l'UNICEF, plus d'un enfant sur quatre ne fréquente pas l'école, soit 7,4 millions d'enfants en âge de scolarité entre 5 et 17 ans n'étudient pas. Et voilà, donc c'est d'après un rapport de l'UNICEF qui a été d'ailleurs validé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Voilà, aujourd'hui, vous avez donné un certain nombre de raisons qui font que les enfants, il y a des perditions scolaires. Mais quelle est la raison majeure? C'est la pauvreté des parents?
La pauvreté des parents, bien sûr.
Oui.
Et il y a aussi l'encadrement qu'il faudra, un mauvais encadrement qu'on peut aussi observer au niveau de l'école. Alors, pour revenir à ces rapports-là, ça c'est un constat. Mais il faut évoluer après ces constats. Qu'est-ce qui a été fait? Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que...
Des mesures, vous avez parlé d'un train de mesures.
Le ministère avait lancé déjà la campagne pour qu'on puisse récupérer un certain nombre, un grand nombre d'enfants dans les circuits scolaires. Donc, c'est un effort qui est déjà avancé.
D'accord. Monsieur Odon Moulanda, expert en éducation, merci.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci. Au capi.